Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, c'est donc Voix au chapitre. Comme chaque dimanche, le plaisir d'accueillir ce dimanche Youssef Zirem, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à Beurre FM, vous nous présentez...
Je vous en prie.
Vous nous présentez ce dimanche « Les étoiles se souviennent de tout ». C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Fauve et qui nous conduit dans une très très belle histoire, qui est une histoire exceptionnelle. Vous le présentez là dans votre livre, une histoire exceptionnelle, mais c'est une histoire, on va le dire, romanesque, qui nous lie avec la grande histoire, effectivement. Et vous en avez fait un roman, une histoire d'un homme et d'une femme, Itri et Mathilde, dans l'été 42, période de l'histoire de France ô combien forte dans notre territoire ici, mais qui a aussi été porteuse d'une histoire internationale, d'une histoire universelle, quelque part, dans cette histoire de l'été 42. Peut-être, vous êtes écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages, hein, plus d'une dizaine de livres sont énumérés dans votre présentation, c'est dire la plume que vous avez, l'envie d'écrire. Mais là, l'écriture, elle est romanesque, mais elle est particulière. C'est un parti pris où on retrouve...
Dans quel sens particulière ?
Elle est particulière dans le sens historique où vous mêlez la grande histoire à cette histoire de Itri et Mathilde.
Ah oui, absolument. Hein. Ceci dit, c'est un roman, c'est une fiction, mais c'est aussi une histoire vraie.
Oui,
hein.
Oui,
donc,
bien sûr.
C'est l'histoire donc de ces résistants kabyles qui avaient donc en 1942 sauvé, grâce au recteur de la grande mosquée de Paris, Ben Rabrit, le Cheikh Ben Rabrit. Donc, grâce à lui, ils ont sauvé des enfants juifs. Ça, c'est une histoire véridique. Mais moi, je romance un peu cette histoire. Donc, j'ai inventé des personnages, je leur ai donné vie à Paris et aussi en Algérie,
en Kabylie.
Voilà. Donc,
c'est cet aller-retour dans votre livre que vous évoquez entre la Kabylie et Paris. On aura l'occasion.
Absolument.
Un long moment à partager. Voilà. Ces chapitres en Kabylie, au village, cette double vie que mène le héros, hein, Itri, avec une femme en Kabylie et une femme en France.
Oui.
C'était finalement le lot de beaucoup d'hommes kabyles dans cette immigration de l'époque.
C'est des faits historiques avérés. Hein.
On mêle le romanesque avec l'histoire. C'est ça qui est intéressant dans votre écriture.
C'est vrai.
Tout à fait, Youssef Zirem.
C'est vrai. C'est fait sciemment, bien sûr. Hein. Bah, le roman, au fait, nous permet de raconter des histoires, nous permet de dire nos pensées. Nous permet de raconter, selon nous, selon l'auteur, je veux dire, hein, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la lutte, qu'est-ce que c'est que le combat. Et donc, moi, je me sers toujours du roman pour raconter souvent des choses réelles, hein, donc qui existent dans la vie. Mais bien sûr qu'il y a du roman, il y a de la poésie, il y a...
Tout est possible dans le roman,
absolument.
Dans l'écriture
romanesque.
C'est le genre,
on va dire, le plus libre dans la littérature, puisqu'on, effectivement... On peut raconter ce qu'on veut, hein, à la limite, on va dire c'est de la fiction. Mais j'avoue que pour ce roman, j'ai lu plus d'une cinquantaine de livres d'histoire.
Voilà, il a fallu être documenté pour rappeler ce fait historique.
Tout ce que je raconte dans le livre, dans ce roman, les personnages, les gens qui étaient dans la Gestapo, les cabarets de nuit, ce qui se faisait à Paris en tant que vie culturelle, tout ça est vrai, hein. Tout ça est vrai. Par exemple, Edith Piaf se produisait durant l'occupation. Hein, donc, il y avait une vie à Paris. Je raconte aussi comment, au départ, il n'y avait pas de résistance. Hein. La résistance a mis du temps pour prendre forme, parce que suite à la défaite, les gens se sont un peu résignés. Hein. Donc, les uns et les autres s'occupaient plutôt comment survivre. C'était pas facile. Hein. C'était le marché noir aussi. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. Donc, tout ça, je le raconte, et c'est vrai historiquement parlant.
Et justement, les bases de ce livre sont cette histoire archive, on va le dire comme ça, quoi, puisqu'il a fallu se documenter. Un historien, quand on fait un travail d'histoire, on a besoin de se documenter, ces dizaines de livres que vous avez lus. Et vous avez rappelé aussi qu'il avait existé, c'était Derry Berkani, que j'ai eu le plaisir d'inviter à la radio.
Je dédie...
Autour de son, vous dédiez son livre.
Oui, je dédie d'abord ce livre.
Aux êtres chers de votre famille, mais aussi à Derry
Berkani, qui est un ami que je connais très bien, qui est une belle plume aussi, qui est un bon cinéaste aussi. Donc, pour l'histoire, c'est lui qui a déterré cette histoire. Donc il en a fait un documentaire qui est passé sur France 3 en 1991, mais malheureusement, si vous voulez, cette histoire a été après cela presque oubliée. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu ce désir de la raconter, parce que d'abord c'est l'histoire de France, mais c'est l'histoire aussi d'Algériens, c'est l'histoire de Kabyles, et c'est une histoire humaine au fait, hein, parce que au fait, ce qui m'a intéressé, c'est que des gens vont un peu à l'essentiel et arrivent à être à la hauteur des valeurs qu'ils portent. Parce que ces résistants kabyles sont aussi des nationalistes algériens qui luttaient contre le colonialisme français à cette époque-là. Mais ils se sont dit, nous avons des valeurs aussi. Quand il y a une injustice, on ne raisonne pas, on va dire, un peu de manière binaire. On a les valeurs, ce qu'on appelle en kabyle « thaqbaylif », ça veut dire c'est des valeurs humaines de générosité, de solidarité. Voilà. Donc ils se sont dit... Il faut qu'on participe à sauver tant qu'on peut des enfants juifs. Voilà.
Alors, Itri et Mathilde sont amoureux, donc c'est ce qui est écrit. Et ils vont se retrouver dans leur vie. Ils sont, on va rappeler quand même que Itri est donc marié en Algérie, au village. Oui. Et qui laisse femme pour venir travailler en France, comme beaucoup l'ont fait à cette époque. Hein, tous ces hommes seuls qui venaient avaient une double vie.
Oui.
Qui parfois était tue, mais qui parfois était dite. Il se trouve que dans cette histoire de Itri et Maradi, qui était son épouse, sa jeune épouse là-bas, elle savait qu'en France il y avait.
Oui, les deux savent, en fait.
Les deux savent, voilà.
Les deux savent, mais c'est des femmes amoureuses toutes les deux et qui sont réalistes parce qu'au fait, la vie de l'une et de l'autre sont comme deux parallèles. Elles ne se rejoignent pas, au fait. Donc, il n'y avait pas lieu à être jalouse, à mon avis. Hein,
Pourtant, chacune va... Mathilde, elle dit bien qu'elle sait qu'un jour il va... Elle sait qu'il est à elle.
Elle espère toujours qu'il va revenir, bien sûr, parce qu'il
y aura des enfants.
Il y a une histoire d'amour entre Maradi et Itri. C'est une vraie histoire d'amour. Ils se sont mariés en Kabylie, mais voilà. C'était le lot de beaucoup de gens à cette époque-là. Il fallait aller ailleurs pour faire... pour se faire une situation, pour faire survivre la famille aussi. Hein. C'était à cette époque-là des familles élargies. Hein. Donc, il vient à Paris et effectivement, Maradi, l'épouse, sait que son homme est avec Mathilde, mais elle dit...
c'est à moi qu'il va être,
voilà,
de toute façon.
Voilà, voilà. Voilà.
Et donc, on parcourt au travers les différents chapitres de votre livre, cet aller-retour entre l'Algérie et la France, entre la vie amoureuse à Paris et puis la vie quand il retourne au village. Et puis quand ils sont à Paris, ben il y a cette histoire qui les rattrape avec le fait de cacher deux enfants juifs, Sarah et David. Et puis quelle importance ça va prendre dans leur vie amoureuse?
Une grande place, parce que au fait, Itri et Mathilde vont recueillir Sarah et David bien avant la grande rafle du mois de juillet 1942. Parce que si ce n'est pas très mis en valeur, ce n'est pas très connu, mais il y a eu des rafles auparavant. Donc, beaucoup de Juifs ont été happés par le nazisme avant la grande rafle. Hein. Et surtout, on avait à cette époque-là donc pris les Juifs un peu d'origine étrangère, qui n'étaient pas français à cette époque-là. Il y en avait beaucoup. Donc ça s'est fait par étapes avant d'arriver à la grande rafle de juillet 42. Et les Juifs ont été l'objet d'exactions terribles. Ils ont vécu des moments très très difficiles. Donc les deux parents
de
Adeline
David
et Yvan de Sarah et de David disparaissent. Et c'est comme ça que Itri et Mathilde recueillent les deux enfants.
D'accord. Voilà. D'ailleurs, on n'en sait pas plus sur les parents.
Oui, si quand même, c'est dit qu'au final, ils seront malheureusement les victimes des camps d'extermination. Mais Itri et Mathilde tentent tout pour retrouver les enfants. Au fait, ils étaient à Drancy à ce moment-là, dans le grand camp de Drancy, mais on ne pouvait pas le savoir. Voilà.
Donc, Sarah et David sont protégés, sont cachés chez Itri et Mathilde. Pendant quelques temps, Et leur vie à ces deux-là, à ces amoureux-là, va être aussi dans cette vie avec ses enfants, et puis c'est toujours ce lien avec l'Algérie.
Absolument. Donc, Ethri et Mathilde vont aimer ces deux enfants comme leurs propres enfants. Et d'ailleurs, ils leur disent, voilà, vous êtes nos enfants, vos pères véritables et mères véritables vont revenir, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, vous êtes nos enfants. Et ne dites à personne que vous avez d'autres parents. Voilà. Ben parce que
sinon, on va venir
à cette
France,
époque-là, il y avait beaucoup de délations, bien sûr, de dénonciations. Hein. Donc, ça a été une époque terrible, mais vraiment noire. Hein. Et d'ailleurs, dans le roman, je raconte aussi un épisode historique qu'on connaît maintenant. Donc, ces résistants kabyles vont se réunir et pour ne pas être dénoncés ni par les Allemands ni par les Français, ils sont acculés, ils choisissent d'écrire leur tract en langue kabyle.
En langue kabyle, voilà.
Ce qui est extraordinaire.
Et vous avez pu avoir trace de ce tract, parce que là,
oui,
il est écrit. Vous nous lisez.
Il est écrit. Je peux le lire, si vous voulez, d'abord en langue kabyle, après en langue française. Donc, c'est encore une fois Deri Belkani qui retrouve ce tract. Voilà.
Et donc, il le retrouve où, vous vous souvenez?
Il le retrouve justement chez un comptable du café où a eu lieu la réunion.
L'Anjou.
L'Anjou, c'est dans le 9e. C'est un café dans un autre arrondissement de Paris. En fait, c'est dans les sous-sols du café que la réunion
a eu lieu. Il y avait beaucoup de cafés, il y avait beaucoup d'hôtels de Kabyle qui n'étaient
c'est ce qui n'est pas raconté, pardonnez-moi, Samia, par la grande histoire, et c'est pour ça que je pense qu'il y a nécessité de réécrire quand même cette histoire. Et tout comme les personnages du roman sont souvent des ouvriers aux moyens assez modestes, il y avait aussi, dès les années 20, hein, à Paris, à Lyon, des Algériens, et principalement des Kabyles, qui avaient des cafés, qui avaient des hôtels. Hein. Voilà, ça c'est la vraie histoire. Hein.
Bien sûr.
Donc je vous lis un peu le texte écrit par les résistants kabyles, d'abord en kabyle. Alors, et ce texte dit cela. أمرشنا إضلي ذي الفجر حبس أذين باريم إمغارن أمثلوين أمرش ذي الغرفة أم نكنيون ذث مثن النغ أرشنسن أمرشنا ما يوان يوفان يوان وقششني إلا قصيف كنصيف أثي صبار أتعدي المحنى Ça, c'est en kabyle, et la traduction en langue française donne ceci. Comme nos enfants, hier à l'aube, les Juifs de Paris ont été arrêtés. Les vieillards, les femmes comme les enfants, en exil comme nous, ouvriers comme nous, ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants. Si quelqu'un d'entre vous rencontre un de ses enfants, il doit lui donner asile et protection. Le temps que le malheur passe, homme de Kabylie, ton cœur est grand. Voilà le texte.
Merci Youssef Zirem.
Je vous en prie.
Que vous êtes l'invité de Voix au chapitre aujourd'hui. Vous parlez de Les étoiles se souviennent de tout. Ce livre vient de paraître aux éditions Fauve. On vous retrouve dans un instant pour la suite de ce livre qui est parti d'une histoire vraie qui raconte l'histoire de Ethri et Mathilde.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
L'invité ce dimanche est Youssef Zirem. Il est l'auteur des Étoiles se souviennent de tout. Ce livre vient de paraître aux éditions Fauve. Et ce livre raconte l'histoire de Ethri et Mathilde. Ils sont amoureux, ils sont à Paris. C'est l'été 42. Et cet été 42, c'était l'horreur à Paris. C'était le nazisme et c'était cette violence qui faisait enlever les Juifs de Paris, et cet homme et cette femme, Ethri et Mathilde, ont pris l'engagement, résisté à cela, et ont pris les enfants de Yvon et
Adeline, ouais.
Et Adeline, qui étaient les parents juifs qui avaient été eux enlevés, et ont repris les enfants et ont élevé pour le coup les enfants dont les parents avaient été enlevés par le nazisme. L'histoire de Ethri et Mathilde est intéressante dans votre livre, je l'ai rappelé en introduction, parce qu'il parcourt dans les chapitres cet aller-retour avec l'Algérie, avec Itrik a une double vie, on l'a déjà dit, qui est celle d'avoir épouse aussi autre femme en Kabylie, Maradi, et qui va aussi, dans ce livre, nous la faire se rencontrer. Donc vous avez là aussi, dans ce romanesque, puisqu'il s'agit d'un roman, voilà, senti... vous le vivez, vous êtes d'origine kabyle, Youssef Zirem, donc ça ne vous a pas échappé évidemment de connaître les contours d'une société kabyle et de la restituer dans le romanesque. Mmh. Donc voilà, parlez-nous un peu de cette femme restée en Kabylie et qui attend.
Ben oui, elle attend son mari, son amoureux, hein. Donc elle l'attend et en même temps. L'attente se fait pesante et puis c'est une poétesse aussi, hein, donc elle va écrire des poésies et ses poèmes vont devenir célèbres. Elle sera même célèbre dans toute la Kabylie. Elle va participer aussi aux travaux des champs avec sa famille élargie. Elle va aller visiter des sites, on va dire des mausolées, hein. C'est toujours le cas même aujourd'hui, hein. Les femmes vont au mausolée et demande un peu des choses à ce mausolée, hein, aux divinités. Hein, elle demanderait que son mari revienne
de retour de son époux, oui.
Sain et sauf. Au fait, je décris, là aussi j'étais obligé d'aller faire des recherches historiques, je raconte l'histoire de cette Kabylie-là, des années 20, 30, 40, telle qu'elle était, hein, avec une grande misère d'abord. C'est une misère qui a été décrite par Albert Camus dans Le Quotidien. Ça a d'abord été des reportages pour Le Quotidien Alger Républicain qui sont parus pendant une semaine au Quotidien en juin 1939. Camus a passé, il était journaliste à Alger Républicain, c'était son premier journal, c'était la première fois qu'il écrivait dans un journal. Camus a passé 15 jours en Kabylie, il a fait la tournée de la Kabylie, et c'est lui qui alerte un peu les autorités de l'époque en disant que c'est intolérable ce que nous faisons subir aux Kabyles. Hein. Voilà. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Il a même eu des soucis après ses reportages. Et toute la presse algéroise colonialiste de l'époque avait écrit des choses terribles pour dire que ce garçon raconte
n'importe
quoi.
Qu'est-ce qu'il racontait là ?
Voilà, pour dire que Camus disait, écrivait des mensonges, alors que c'était vraiment la vérité. Hein. Et Camus, quand il arrive en Kabylie, c'est pas seulement le regard de quelqu'un qui vient de l'extérieur, parce que Camus est un Algérien aussi, hein. Il est né en Algérie, hein. Bon, et il a toujours eu des amis kabyles, hein, dont le grand écrivain kabyle Mouloud Feraoun, hein. Ils étaient très amis. Et donc il arrive, il essaie de comprendre les codes de cette société. Il écrit même ceci qui est extraordinaire. Il écrit que nous avons des leçons de démocratie à apprendre chez le peuple kabyle. Il écrit ce peuple, il ne possède même pas de prison parce qu'au fait, celui qui faute en Kabylie, il est tout simplement banni. Mais c'est encore pire que la prison parce que quand vous êtes banni, vous n'avez plus le droit de revoir votre famille, même ni votre frère, ni votre père, ni votre mère. Donc c'est encore pire que la prison en fait. Donc je raconte un peu la Kabylie, de cette Kabylie là, avec aussi les difficultés, avec l'errance des uns et des autres. Je fais un peu évoluer un personnage qui s'appelle Akli, qui a fait la guerre du Rif. Hein. Il a fait la guerre du Rif pour les Français. Il a été capturé par les Rifains parce que Abdelkrim avait instauré la République, hein, dans le Rif pendant 6 ans. Et n'eût été sa langue maternelle, le kabyle, que les Rifains comprenaient, et il leur a expliqué qu'il était enrôlé de force par l'armée française, il aurait été égorgé. Oh. Voilà.
Donc, la fin est tragique d'Akli en même temps. Hein.
Oui, ça, et c'est pour dire aussi que cela existait à cette époque-là. Hein. Les gens qui mettent fin à leur vie existent, et c'est pour raconter, être un peu dans plus près de la réalité. C'est une réalité terrible pour les Kabyles à cette époque-là. Le colonialisme avait fait beaucoup de tort, quoi. On a tendance parfois à l'oublier aujourd'hui, mais la réalité, c'est que il y avait des injustices terribles. Voilà.
On va revenir sur Dans le livre, il y a cette description que vous faites brillamment autour de, effectivement, ce contexte de l'époque, de ce que l'on vit dans les villes, les villages, essentiellement les villages pour le coup, en Kabylie, décrite par l'auteur, par Camus, mais on est aussi dans cette époque-là, dans cette période historique, dans ce que va décider de faire, justement, quittons la Kabylie et revenons à Paris, la reconnaissance de ce qu'ont fait les Kabyles à ce moment-là dans le fait de protéger des enfants juifs. En l'occurrence, les héros de votre roman, hein, Idriss et Mathilde, qui vont protéger Sarah et David. Il y aura une reconnaissance, à la fois plus que symbolique, parce que celle-là aussi, on la connaît pas. C'est
oui,
ce que va
oui, elle est,
faire
elle est,
le
elle
président Lyotard
jusqu'à aujourd'hui.
Être,
ah, oui, 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 oui. Et pas seulement Idriss et Mathilde, parce que il y a aussi ce groupe de résistants Kabyles. Hein.
Et comme je voulais partir des héros de votre livre.
Vous avez raison.
Pour ouvrir effectivement l'ensemble de la communauté, bien sûr.
Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a Idriss et Mathilde, mais il y a aussi leurs amis. Il y a le patron du café qui a aussi eu comme compagne Evelyne, qui est française aussi. Il y a de vieux résistants nationalistes aussi, hein, donc qui ont un parcours, hein, qui ont aussi une formation, qui ont fait des études. Hein. Ça existait aussi à cette époque-là. Hein. Ils étaient proches des milieux un peu communistes et c'est eux qui vont décider donc de s'engager dans cette bataille pour sauver des enfants juifs. Et il y a aussi un personnage central aussi du roman et qui a réellement existé, c'est le Cheikh Qadour Ben Rabrit, hein. Cet homme qui est aussi écrivain, hein, qui a écrit des pièces de théâtre, qui a écrit un livre sur le grand poète arabe Ibn Nouès et qui a plusieurs jeux en même temps, parce que il faut sauvegarder la mosquée, il faut plaire un peu aux Allemands, mais aussi aider les gens qui souffrent. Et c'est ce qu'il a fait réellement, hein, ça c'est vrai. Il va même donner des papiers musulman entre guillemets à Salim Halali, qui est un grand chanteur juif mais algérien aussi, et qui est mort malheureusement un peu dans l'anonymat je crois 2005 du côté de Nice, hein. Mais ce sont des histoires véridiques, hein. Alors Salim Halali, lorsqu'il a eu les papiers grâce au Cheikh Ben Rabrit, se produisait librement, chanter à la mosquée de Paris. Voilà, ça c'est des faits avérés, hein. Ça c'est la grande histoire avec H.
L'amour est toujours plus fort, l'amour est invincible, seul l'amour sait cheminer avec l'éternité. Ne cessez de répéter le Cheikh Ben Rabrit, c'est dire aussi l'importance qu'il avait dans
Si ça,
dans
c'est un humaniste.
Poésie, c'est un humaniste.
Oui, c'est un humaniste.
Un
ce
homme
qu'il
de
faut
paix.
Dire aussi, Samia, c'est que c'est lui qui est derrière la création de la grande mosquée de Paris. Hein, parce que la grande mosquée de Paris a été un cadeau des autorités françaises aux musulmans, hein, qui sont tombés par des dizaines de milliers durant la première guerre. Voilà. Ouais. La Première Guerre mondiale, 14-18. Donc, l'État français s'était dit, on donne un cadeau, une offrande à ces musulmans qui se sont sacrifiés pour la France. Et donc, Cheikh Ben Rabrit va créer une association et il va insister. Et à force un peu de persévérance, l'État français donc arrive à construire justement cette grande mosquée de Paris, qui est bâtie sur
l'ancien hôpital,
un ancien hôpital. Voilà.
C'est une période d'histoire que sur laquelle nous avons beaucoup parlé à Beurre FM, justement autant de cette commémoration du centenaire de la Grande Guerre, rappelant qu'il y avait effectivement près de
70 000.
Il y avait 700 000 hommes qui venaient des territoires coloniaux et il y avait 70 000 Algériens qui étaient donc considérés dans la communauté qui appartenait à la communauté musulmane pour l'Afrique du Nord, mais il y avait aussi l'Afrique de l'Ouest qui était là.
Et c'est pour
tous les musulmans dans son ensemble qu'effectivement cette mosquée.
Tout à fait, c'est pour tous les musulmans,
Mais c'était pas. Aujourd'hui, on ne le sait pas tout ça. Parce qu'à la mosquée aussi, on en a caché des.
Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis toujours, il faut revenir à l'histoire et la réécrire de manière plus objective. Il ne faut pas non plus la mythifier, hein, que ce soit pour les Kabyles ou pour les Algériens, pour les Nord-Africains, pour les musulmans, mais la raconter telle qu'elle a réellement existé, avec ses contradictions, avec tout ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, effectivement, l'épisode que je raconte dans Les Étoiles se souviennent de tout, est presque caché, et même certains ne voudraient plus en parler, hein, voilà. Mais je pense que ce n'est pas la bonne méthode, même si on a des calculs politiques, politiciens, mais ça c'est l'histoire. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est autre chose.
Mais dans la réalité, quittons le romanesque, si je puis dire, oui, basé sur un fait historique, dans la réalité, aujourd'hui, en France, on commence à l'entendre, ça. On commence à le savoir, en tout cas. Il y a une plaque à la mosquée de Paris qui rappelle que des juifs ont été cachés.
Bien sûr. Tant mieux. Bon, je veux dire.
Et en Algérie, comment ça se sait, cette histoire-là?
En Algérie, je dirais, la pauvre, elle a tellement de problèmes que de s'occuper de cet épisode. Elle devrait. Ce serait bien sûr. Ça honore et les Kabyles, les Algériens et les Nord-Africains, mais vous connaissez les difficultés de l'Algérie d'aujourd'hui, depuis quelques années déjà, hein, malgré le potentiel énorme que ce pays possède, mais malheureusement ce n'est pas encore vraiment le chemin vers, on va dire, la réhabilitation de l'histoire. L'histoire elle-même de la guerre de libération n'est pas encore écrite, l'histoire récente n'est pas écrite, c'est tout un chantier. Mais effectivement, il y a quand même des gens qui s'intéressent, qui font des recherches. Je parlais de l'histoire officielle, hein. Je ne parle pas des investigations que peut avoir librement un chercheur ou un universitaire. Mais je crois que en France et en Algérie et au Maroc, parce que Ben Rebrit aussi est marocain, hein, il est né à Sidi Bel Abbès, mais il est aussi marocain. Il a été très proche du Marzen, donc du roi du Maroc de cette époque-là. Donc tout le monde, à mon avis, gagnerait à ce que cette histoire soit connue. Parce que, au fait, c'est une histoire qui rapproche les peuples,
qui apaiserait aussi ce passé aussi.
Tout à fait.
Et ça présente
pour dire qu'au fait,
musulmans et des juifs,
important peut-être dans les existences humaines, c'est l'humanisme. Après tout, les femmes et les hommes sont tous pareils, hein. On peut avoir les convictions on peut ne pas en avoir d'ailleurs. Je parle des convictions religieuses, mais il y a toujours moyen d'être dans un vivre ensemble agréable où le respect de l'un et de l'autre existe avec toutes les différences. Voilà, c'est un peu, si je puis dire, un peu ce que je veux dire à travers ce roman, et je le fais en général dans tous mes écrits.
Les étoiles se souviennent de tout. Youssef Zirem en parle passionnément. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Fauve. On le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
Poursuivons ce rendez-vous littéraire ce dimanche avec Youssef Zirem. Il est l'auteur de Les étoiles se souviennent de tout. Son livre vient de paraître aux éditions Fauve et on poursuit la rencontre avec vous, mais particulièrement avec les héros, parce qu'on va les appeler héros quand même, Itri et Mathilde, qui sont un homme et une femme amoureux à Paris dans cet été 42 et ils vont cacher Sarah et David, qui sont deux petits dont les parents ont disparu quelques mois avant, vous le rappelez. Et la vie n'est pas que la vie de Itri et Mathilde. En réalité, dans votre livre, on va le rappeler, c'est la vie aussi de la Kabylie, puisque Itri a épouse en Kabylie quand il a femme à Paris. Et cette double vie, elle est aussi une double vie dans l'histoire, puisqu'effectivement, un jour, ils vont traverser la Méditerranée, ils vont se retrouver en Algérie.
Oui, les deux enfants d'abord, parce que Mathilde comprend que la situation peut encore s'aggraver à Paris. Donc, elle se dit que ces deux enfants seront certainement mieux protégés en Afrique du Nord. Et donc, grâce à une femme de cœur qui est proche du Cheikh Ben Rebrit, qui s'appelle Margot, et c'est une danseuse au fait, et donc Margot prend les deux enfants avec elle, et donc de pérégrination en pérégrination. Donc c'était pas difficile d'aller dans la zone non occupée encore par les nazis, donc le sud. Donc elle est guidée un peu par d'autres résistants kabyles qui essayent donc de l'aider, et elle arrive quand même à embarquer, et donc elle est à Alger, où elle est reçue aussi par un parent, justement, Dithri. Et donc là, les deux enfants sont en sécurité, on va dire. Même si, lorsqu'ils arrivent à Alger, c'est aussi le régime de Vichy. Hein. Ouais, c'est le régime de Vichy. Et donc, le régime de Vichy va encore rester jusqu'au début du mois de novembre, quand les Américains débarquent en Afrique du Nord. Et aussi à Alger. Donc là, tout le monde, on va dire, va être en sécurité, puisque donc le régime de Vichy est abattu. Voilà, il n'existe plus. Mais il faut savoir qu'il a imposé sa loi pendant quand même toute cette période, 39-42. Hein, donc, et là aussi, les Juifs ont été victimes d'exactions. Les écoliers juifs ont été obligés, ont été chassés des écoles. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées aussi. Donc, je raconte aussi cette ambiance véridique. Hein. C'est la grande histoire. Je dis aussi comment, les Kabyles, les Algériens regardaient cet affrontement, hein, cette guerre mondiale, parce que ils ne comprenaient pas souvent les enjeux. Hein. Bon, c'est des enjeux qui les dépassaient un petit peu. Hein. Alors, ils ont une puissance qui les domine depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années, puisque la France colonialiste arrive un peu à maîtriser la situation pratiquement dans toute l'Algérie à partir du mois de janvier 1872. Donc elle est déjà présente. Hein. Donc eux sont malheureusement pour beaucoup d'entre eux des sous-citoyens. Hein. On les appelait d'ailleurs les indigènes, bien sûr. Voilà, donc ils ne comprenaient pas comment cette puissance est maintenant reléguée au second plan, puisqu'il y a des gens qui sont plus forts qu'eux, qui les occupent. C'est un peu compliqué, donc ils se posent des questions. Mais bon, c'est les plus éclairés comprennent, bien sûr, les plus éclairés comprennent, et les nationalistes sont toujours aussi dans leur quête, hein, parce que à partir des années 20, jusqu'en 1954, il y a eu toujours des tentatives nationalistes algériennes dans le but de libérer le pays. Voilà.
Et dans cette fin de livre, si tant est qu'on puisse avoir envie de, bien sûr, de lire le livre, mais si on donne des éléments historiques, l'histoire est positive, puisqu'après, il y a un certain apaisement qui se fait, mais même si Itri a traversé quand même une période difficile.
Oui, Itri, enfin, on va pas tout raconter, bien sûr, mais il y a dans le livre, ouais. mais Itri va passer comme beaucoup de ses compagnons des moments très difficiles. Il sera arrêté par les Allemands, etc. Hein, bon, mais la lutte va continuer. Le roman se termine au mois de novembre 42. Hein, voilà. Et donc, mais dans le roman, on comprend que la résistance continue. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en sortir. Est-ce que les nazis seront détruits, vaincus? Est-ce qu'ils vont réussir à dominer le monde? On ne le sait pas. Hein,
dans on ne sait pas dans le roman, mais dans la réalité, c'était dans cette allusion-là que je disais qu'il y a une fin. C'est que effectivement, on sait aujourd'hui comment ça s'est terminé et comment il y a eu des hommes, des femmes qui ont été des justes, qui ont caché des juifs. Et puis là, votre Le focus, l'histoire s'arrête justement sur une particularité, une singularité, c'est que ce sont ça s'est passé à Paris, c'est un homme kabyle, c'est un groupe de résistants kabyles, et donc cette singularité qui est peu connue, elle était importante de la raconter.
Je pense qu'il était important de la narrer, de la raconter, de la faire connaître. Ce n'est pas par chauvinisme ou par, on va dire, patriotisme, ou par autre chose, c'est juste que c'est une histoire véridique. Il se trouve effectivement que ce sont des Kabyles, parce qu'il faut savoir que à cette époque-là, la quasi-majorité des immigrés venant d'Algérie en France étaient Kabyles. Les autres régions vont commencer à venir en France après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on va dire de 1900 jusqu'à 1945, on peut dire que 90% des Algériens qui sont en France sont kabyles. Ça, c'est l'histoire. Hein. Je la réinvente pas. C'est ce qui s'est passé.
Migratoire.
Oui, il se trouve que la Kabylie, comparativement à d'autres régions d'Algérie, était plus démunie. Hein. Donc, il y avait moins de travail que dans les plaines, par exemple. Donc, et d'ailleurs, l'immigration kabyle, elle a été aussi dans le reste de l'Algérie. Hein. Il y a des kabyles qui ont émigré dans l'Ouest,
dans les grandes villes,
etc. Mais beaucoup d'entre eux, à ce moment-là, dès que c'était possible, en fait, à partir, on va dire, de 1900, voilà, les Kabyles viennent en France. En 1904, il y avait déjà en France près de 6000 Kabyles qui travaillaient. Ils travaillaient à Marseille, ils travaillaient à Paris et ils travaillaient dans les mines du Nord. Ça, c'est l'histoire. Mmh, hein, ça, c'est la vérité. Donc, c'est bien de connaître cette histoire. Et cette histoire concerne deux pays et concerne plusieurs peuples. Mais elle nous donne peut-être une leçon pour aujourd'hui. Elle nous donne une leçon dans la mesure où on peut toujours venir à l'aide de l'autre malgré qu'il nous soit différent, malgré qu'il porte peut-être des valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais nous sommes tous des humains et donc nous pouvons être solidaires avec l'autre.
Les étoiles se souviennent de tout, c'est le titre de votre ouvrage, Youssef Zirem, et nous avons parlé au cours de ce Voix au chapitre aujourd'hui essentiellement de ce livre. Mais il n'est pas question d'oublier l'autre ouvrage que vous avez fait paraître dans ce même temps, chez ce même éditeur, aux éditions Fauve. C'est le livre que vous avez fait en hommage, en tout cas, à cet homme, ce grand monsieur qui était de poète de la chanson kabyle, le Matou Blounès, La fin tragique d'un poète. Ce livre est paru dans une triste commémoration, il est paru avant l'été, donc ça faisait 20 ans que Matou Blounès avait été assassiné. Vous racontez dans ce livre, et je voulais juste le dire, que vous aviez publié cette histoire de Matou Blounès. Dites-nous rapidement de quoi il est question dans ce livre et nous aurons l'occasion.
Oui, c'est d'abord un clin d'œil, vous venez de le dire, hein, c'était les 20 ans de son assassinat. Et je me suis dit que ça serait bien de lui rendre un hommage. J'ai connu personnellement Lounès Matoub. Je raconte d'ailleurs quelques anecdotes que j'ai vécues en sa compagnie, en compagnie d'autres amis, sur scène, etc. Mais je fais aussi la synthèse de ce qu'est cet homme qui est d'abord un grand poète. Et puis c'est un poète engagé, hein, et c'était un poète aussi qui est kabyle, mais qui a toujours défendu les causes justes à travers le monde. Voilà. Donc il a fait une très très belle poésie. Malheureusement, il a eu une carrière relativement brève. Il a commencé à chanter, à éditer en tout cas des disques, des cassettes à l'époque en 1978, et il est mort assassiné. 20 ans plus tard, donc sans que on ne fasse jusqu'à aujourd'hui un véritable procès, hein, sans qu'on dise réellement qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Mais je mets aussi dans ce livre des extraits de ses poésies traduites, bien sûr, et je raconte un peu sa singularité. Je raconte aussi
son universalité aussi, oui, d'une certaine manière.
Absolument, il est devenu universel. Ce qui est magnifique chez Lounès Matoub, c'est qu'il a toujours évolué. Donc, ce n'est pas un universitaire, et d'ailleurs, les universitaires kabyles l'avaient un peu snobé au départ, hein, marginalisé. Mais lui, c'est un grand lecteur, et puis c'est quelqu'un,
près du peuple,
et qui écoutait. Hein, quand il prenait une bière dans un café, et quand il y avait quelqu'un d'intéressant qui pouvait lui apprendre quelque chose, il venait toujours, il écoutait, il gardait le silence. Donc, il a toujours appris.
Il s'enrichissait des rencontres, bien sûr.
Absolument, voilà. Donc, et il a eu une vie difficile aussi. Hein. Donc, il a été kidnappé. Les gendarmes algériens lui ont tiré dessus en 1988, en octobre 1988. Il a fait une douzaine d'opérations pour qu'il s'en sorte avant d'être assassiné, donc le 25 juin 1998, voilà.
Un grand poète, et vous vous rappelez dans le sous-titre de ce livre, Matou Blounès, la fin tragique d'un poète, puisque c'est cet assassinat encore dans l'inconnu de ces assassins. Ça a été quelque chose qui traverse l'Algérie, les militants aussi, la Kabylie aussi, on se souvient
de
pourquoi ce silence et pourquoi c'est un livre de dénonciation aussi, de condamnation
aussi, mais moi j'essaie toujours d'être objectif. C'est un essai, c'est un récit. Au fait, je rappelle les déclarations des uns et des autres, je rappelle les faits. Mais je ne dis pas qu'il a été assassiné par telle personne. Hein, donc, c'est à l'enquête de démontrer hein, qui a assassiné Lounès Matoub. Mais je trace des pistes et les gens peuvent comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais sans tabou. Lounès Matoub est aujourd'hui quelqu'un qui est devenu une référence, un symbole de toute l'Afrique du Nord. Hein. Et il est adulé au Maroc, il est adulé en Libye. Et quand il y a des manifestations, que ce soit au Maroc ou en Kabylie ou en Libye, souvent le portrait de Lounès Matoub est brandi. Quand il y a eu tous ces mouvements... avant que le régime de Kadhafi tombe, ben les Berbères libyens, qui sont très importants, très, très actifs aussi, brandissaient tous le portrait de Lounès Matoub, ce qui est extraordinaire. Hein. Le portrait de Lounès Matoub est aujourd'hui brandi dans l'oasis de Siwa, c'est en Égypte. Hein. C'est dire qu'il a un peu dépassé les frontières hein, des nations, on va dire. Hein. Et c'est son œuvre, c'est son engagement et c'est aussi sa sincérité parce que ce garçon, il n'a jamais triché.
Il était entier.
Il était entier. Ouais.
Merci pour cet hommage dans ce livre « Matoub Lounès, la fin tragique d'un poète ». Et je rappelle que notre rencontre autour de ce Voix au chapitre aujourd'hui portait essentiellement sur « Les étoiles se souviennent de tout ». Ce livre vient de paraître aux éditions Fauve. Merci, Youssef Zira.
Je vous en prie.
D'être venu à Beurre FM.
Merci beaucoup.
Ce jour.
Merci.
Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine.
Voix au chapitre sur Beurre FM.